Syllabe, la radio sauvage.
Faut juste oser, en fait, et poser aussi les bonnes questions.
Création, émission, fiction.
Les ateliers de radio Syllabe dès 10h le samedi.
C'est pour ça que j'aime bien la radio.
Vous allez écouter deux créations documentaires réalisées par des élèves de seconde en option cinéma audiovisuel au lycée Chateaubriand à Rennes. Les élèves ont travaillé à la création de documentaires sonores, d'animations 3D ou encore de reportages vidéo sur le thème de la liberté. 8 élèves parmi ces 24 élèves ont choisi le parcours radio. Ils et elles se sont répartis en deux groupes. Le premier documentaire que vous allez entendre a un titre sous la forme d'une question. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est-elle une atteinte à la liberté ? Éponine, Gabriel, Marius et Mathéo ont choisi de travailler sur ce sujet. Le texte visant l'interdiction est actuellement en navette parlementaire et cible entre autres TikTok, Facebook ou encore Snapchat. Sa mise en œuvre fait l'objet de nombreux échanges entre députés, sénatrices et sénateurs et plus largement au sein de la société. Le groupe a ainsi choisi d'explorer ce sujet que je vous invite à découvrir tout de suite.
Les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. Le Sénat a adopté ce 1er avril 2026 un texte visant à interdire totalement les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.
L'Australie est le premier.
Ils vont les autoriser
évidemment cette une interdiction symbolique. On va pas envoyer derrière
la force. On peut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir de la rentrée prochaine. L'Assemblée nationale a adopté lundi 26 janvier le texte porté par la députée Renaissance, Laure Miller. L'objectif, c'est avant tout de protéger les
jeunes. La question de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a longuement été débattue ces derniers mois. Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, fut le sujet de nombreuses questions auprès des plus jeunes concernés par l'interdiction, mais a également suscité controverse entre les partisans du pour et du contre. Nous nous sommes penchés sur le sujet en nous demandant si cette interdiction était une atteinte à la liberté. Au cours de notre enquête, nous avons pu interviewer de nombreuses personnes de toutes les tranches d'âge, et comme vous allez le voir, les avis sont partagés.
C'est sur les réseaux sociaux, donc qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?
Je pense que je suis d'accord, je suis pour ça, car j'ai mon petit frère qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
Je pense que c'est important pour certaines personnes qui font beaucoup de temps d'écran et tout, mais à la fois il y a des enfants, des gens qui ont besoin de s'évader et tout, et les réseaux ça peut servir pour ça.
Je pense que ça peut être une bonne mesure, parce que je sais que j'avais les réseaux sociaux à cet âge-là, et en fait on se rend pas trop compte de ce que ça représente et de ce qu'on fait dessus, donc je pense que ça peut être une bonne idée.
Bon, 15 ans, non, peut-être pas quand même, plus jeune, mais pas 15 ans.
Je trouve que c'est pas normal, parce que les limites c'est bien de se les mettre, t'apprends en fait, tu t'apprends à te gérer toi-même. Je trouve que c'est pas une bonne chose de forcer des limites pour les jeunes.
Vu que nous, on utilise un peu tout ça, c'est un peu contraignant pour parler avec ses potes et tout.
Je trouve que c'est bien parce que ça t'évite de te comparer aux autres. Enfin, je pense que dans le développement d'un adolescent, c'est bien qu'il ne soit pas tout le temps à regarder ce que font les autres et à se comparer du coup indirectement, quoi.
Nous avons interviewé Laetitia Lemétayer, avocate spécialisée dans le droit numérique, qui a pu nous renseigner sur les cas juridiques de ce secteur.
Elle accompagne des personnes ou des entreprises qui ont un sujet ou un projet en lien avec l'informatique pour mettre en place des actions tout en respectant le cadre légal.
Est-ce que les réseaux sociaux ils créent de nouveaux problèmes juridiquement ? Et si oui, lesquels ?
Alors oui et non. Alors il y a des comportements qu'on retrouve dans la vie réelle, peut-être pour essayer d'adapter à votre environnement de lycéen, le harcèlement, par exemple, c'est des choses qu'on retrouve dans la vie réelle. Donc je dirais qu'en cela, il n'y a pas de nouveauté. Je dirais que c'est plutôt de l'adaptation, c'est de la transformation des comportements au réseau social.
A-t-on la même liberté d'expression sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle ?
Pour simplifier, oui. Les mêmes principes vont s'appliquer dans la vie réelle que dans la vie virtuelle sur un réseau social. On a la liberté de s'exprimer, on a la liberté de donner son opinion, la liberté aussi de critiquer l'opinion d'un autre, de montrer son désaccord, ça c'est possible. La différence c'est peut-être encore une fois sur parfois le contenu qui peut être diffusé et l'impact que ça peut avoir sur une victime, et effectivement le même principe s'applique.
Quel type de contenu sont interdits par la loi ?
Les premiers contenus, c'est des contenus qui sont haineux, d'accord ? Le fait de menacer quelqu'un. Des contenus qui vont venir porter atteinte à la vie privée d'une personne. D'autres contenus interdits, bah, évidemment des contenus pédopornographiques, évidemment, et des contenus qui vont venir faire l'apologie du terrorisme, de certains événements qui sont effectivement interdits. Alors, il y a une dernière catégorie, c'est des contenus qu'on appelle des contenus injurieux ou diffamatoires, qui vont venir porter atteinte plutôt à l'honneur d'une personne.
Nous avons interviewé Anthony Masto, qui est rédacteur en chef en charge de la coordination numérique à France 3 Bretagne. Comment les réseaux sociaux ont-ils changé votre métier ces dernières années ?
C'est une fenêtre ouverte sur de nouveaux publics énormes. Donc ça nous permet, nous, médias de service public, d'aller parler à tous les publics. C'est-à-dire que, bien sûr, d'une part, il y a la télé, etc. Ça, c'est une chose. Mais toute la partie numérique, et notamment les réseaux sociaux, ça nous permet d'aller parler à d'autres publics, des publics plus jeunes, souvent. Et puis... ça a multiplié le nombre de personnes qui peuvent nous voir. On est sur des échelles très différentes, en fait, et avec des forts enjeux. Donc voilà en quoi tout ça nous bouleverse un peu et fait qu'on est en train de s'adapter, de changer, d'évoluer, et voilà, etc., etc.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes concernant l'usage des réseaux sociaux ?
Un conseil, enfin, pour moi, quel conseil essentiel, et s'il n'y en a qu'un, c'est celui-ci, c'est... toujours avoir en tête qui est en train de me parler, d'où vient l'information que je suis en train de lire, d'où vient le contenu que je suis en train de regarder, voilà, qui est en train de me parler et pourquoi il me parle. Une fois que je sais qui me parle et que je ne mélange pas qui me parle, je suis assez libre, en fait. Je sais d'où me vient l'information, j'ai mon esprit critique qui se met en place. Si je ne suis pas capable de faire la part des choses, c'est un vrai problème.
Largement controversée, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été le cœur de nombreux débats, notamment chez les jeunes, qui trouvent cela contraignant et infantilisant pour certains, ou facile à esquiver pour d'autres. A contrario, certains déclarent que c'est une bonne mesure. Il est légitime, en effet, de douter de l'efficacité de la loi. Sera-t-elle en effet contournable ? N'aura-t-elle aucun effet ? Au contraire, sera-t-elle bénéfique pour les jeunes ? Car c'est là avant tout l'objectif de l'interdiction votée par l'Assemblée. Notre sujet portant sur une atteinte éventuelle à la liberté, nous pouvons affirmer, après notre enquête, que, certes, cette interdiction est bien une atteinte à la liberté. Elle va restreindre la liberté des jeunes sur Internet. Elle va également limiter leur communication numérique, dans une époque où ce numérique est omniprésent. Mais également peut-être retarder leur apprentissage de l'autonomie sur Internet. Cependant, si l'interdiction est un succès, elle pourra préserver les jeunes de l'accès à de contenus inappropriés, tels que la pédopornographie, le racisme, les discours masculinistes ou l'incitation au suicide, voire même protégés du cyberharcèlement, aujourd'hui devenu légion sur les réseaux. Atteinte à la liberté, ou au contraire bonne mesure, à vous de décider.
Le second documentaire s'appelle « Parole de femmes ». Les femmes sont-elles libres de prendre la parole dans la sphère publique ? Et quand elles parlent, sont-elles entendues ? Ce sont ces deux questions qui ont guidé Chloé, Leïla, Louise et Rose. Et je vous invite tout de suite à découvrir leur travail.
Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Aujourd'hui, ce qui est acquis, en tout cas... en France, c'est que depuis une cinquantaine d'années, le droit n'est plus sexiste en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discrimination fondée sur le droit.
Mais si la loi garantit une égalité parfaite entre les genres, on observe encore aujourd'hui une répartition inégale de la parole des hommes et des femmes dans les médias ou encore au quotidien. Malgré les progrès effectués au cours du temps, les femmes sont et se sentent-elles parfaitement libres de prendre la parole dans la sphère publique ? Et si elles se font entendre, se font-elles pour autant écouter ? Un podcast réalisé par Louise, Rose, Chloé et Leïla en collaboration avec la radio Syllab de l'Université de Rennes 2 et la section CAV du lycée Chateaubriand.
Je pense que le fait aussi que les femmes prennent moins la parole ou n'osent moins prendre la parole, ça vient dès l'enfance, dès la socialisation à l'école. Et aussi dans la famille, dans certaines familles. Même si maintenant, il y a de plus en plus de familles où c'est plus ouvert, il y a quand même d'autres familles où c'est les gars qui peut-être s'expriment le plus. Parce que dans les clichés qu'on a, les stéréotypes, c'est les filles sont plus discrètes, plus sages. Et donc, je pense qu'après, ça se répercute jusqu'à l'âge adulte, quoi.
Ouais, et puis vraiment, dans toutes nos représentations, depuis qu'on est enfant, on voit vraiment que les femmes sont... Enfin, par exemple, dans le cinéma ou dans les BD, en fait, vraiment, quand on est enfant, on nous apprend vraiment à ce que, en fait, les hommes, ce soient les gens qui parlent fort, qui s'expriment. Et, et les femmes, disons, se taisent un petit peu comparé à ça et sont vraiment vachement invisibilisées. En fait, on nous apprend. Et en fait, pour nous, c'est juste normal d'être cachées et masquées par les hommes, en fait. Les femmes, vraiment, qui parlent et qui s'expriment, et qui disent leur idée haut et fort, et elles vont vraiment être vues comme des personnages embêtants et chiants, quoi.
Afin d'enrichir notre idée, nous nous appuierons sur le savoir et l'expérience de deux femmes impliquées dans la lutte féministe.
Bonjour à tous, je me présente Régine Komokoli, je suis conseillère municipale et métropolitaine à Rennes Métropole, féministe, militante antiraciste.
Donc je m'appelle Fanny Bunion, je suis historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine et en études sur le genre à l'université Rennes 2 et donc spécialiste d'histoire des femmes.
Lors de nos recherches, nous avons pu remarquer que le silence féminin est généralement dû à une barrière que les femmes se mettent, car aujourd'hui, se taire et laisser les hommes parler, c'est encore la norme.
Je suis très timide, ça se voit pas, mais si, et en plus ma timidité a été conditionnée vraiment par cette politique très genrée. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je viens d'une tribu d'oraliture où parler, c'est une fierté, c'est le seul moyen de toute façon de communiquer. Donc, je n'ai jamais eu ce problème-là. Et c'est à partir du moment où j'arrive là, je prends conscience que, en fait, oui, je me suis reconditionnée à me taire, à être timide, en fait, à faire croire que je suis timide parce que j'ai peur de parler.
Ce conditionnement pèse sur les épaules des femmes et s'impose alors comme une forme de charge mentale.
C'est toujours, toujours de chercher, toujours à se former, à se préparer, à anticiper. Et moi, à chaque sortie, à chaque limite, le seul endroit où c'est safe pour moi, c'est quand il y a des femmes. Limite, j'ai envie de vous dire que là, je suis venue sans me préparer. Ce qui est finalement un luxe de santé mentale parce qu'on ne mesure pas la charge, ce que ça coûte, cette pression qu'on se met, qui fait du mal au corps tout simplement, parce que c'est la tension qu'on augmente aussi. Donc oui, des fois, je sais bien que ce que je vais dire est correct, mais je tourne ça dans ma langue, je me dis, est-ce que c'est bien dit, est-ce que c'est bien formulé?
Au cours des dernières années, de nouveaux termes comme le mansplaining et le mansplaining sont apparus afin de dénoncer des attitudes et des comportements paternalistes.
Donc c'est un peu, en gros, c'est les hommes qui vont vous expliquer, par exemple, une mère isolée, on va dire comme ça, seule, de expliquer la vie d'une femme qui vit seule, qui élève ses enfants, le quotidien des enfants, ou bien quand même encore être une femme, comment on vit du sexisme, comment on peut en souffrir, ou aussi des fois sa fonction en tant que dans le métier, et surtout en politique. En politique, c'est très régulier. Les collègues hommes aiment beaucoup faire ça. Une fois qu'on a fini une présentation, ils reprennent encore, ils respectent tout, et des fois même très faussement. Et je le vis au quotidien, je le vis aussi dans ma vie en tant que femme régulièrement. Pour moi, tout ce processus, c'est vraiment derrière une forme de domination. De domination très patriarcale, parce que je viens vous rappeler, Madame Komokoli, c'est ce que vous voulez dire, c'est pas ce que vous voulez dire. Et en plus, dans la même occasion, ils souvent profitent pour s'excuser aussi des situations, pour dire « Ah, mais moi, je suis pas responsable de ça et tout. » Alors que des fois, les propos, c'est pas pour accuser. D'ailleurs, en tant que femme politique aujourd'hui, je ne me permettrai pas de porter... des critiques individuelles. Moi, c'est collectif, c'est systémique, c'est une société, et qu'on le veuille ou pas, on est dans une société patriarcale qui élève les garçons dans le sens où c'est eux qui savent tout, c'est eux qui dominent avec une violence.
Effectivement, quand on commence à vouloir partager le pouvoir, à partager l'espace, à partager la reconnaissance, ça veut dire que peut-être que ceux qui en avaient beaucoup en ont un petit peu moins parce que le gâteau fait toujours la même taille, donc ça veut dire accepter d'avoir des parts un petit peu plus petites, mais si on considère que les femmes sont la moitié de l'humanité, moi ça ne me semble pas scandaleux que de vouloir rééquilibrer un petit peu la balance.
L'histoire nous montre que les femmes qui osaient prendre la parole pour défendre leurs droits encouraient des risques. Olympe de Gouges, femme de lettres, femme politique et féministe ayant publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, fut guillotinée en 1793 pour avoir osé exprimer ses idées. Face à ces risques, les femmes ont par la suite développé des stratégies afin de se faire écouter.
Il y a beaucoup de femmes qui ont, dans la littérature en particulier, pris un pseudo masculin, ou dans la presse, dans les journaux, qui ont signé avec des pseudos masculins pour pouvoir être éditées.
Personne n'avait parié sur ma candidature, y compris dans le parti politique ou dans ma famille politique, j'y résidais. Et donc on m'avait dit que ce n'était pas gagnable le canton, que j'avais aucune chance et que même notre liste n'avait aucune chance. Et même à l'origine, personne ne voulait venir avec moi parce que pour se présenter au cantonal, c'est-à-dire au départemental, il fallait un binôme. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rédigé le programme, j'ai envoyé au parti, ils l'ont rétoqué. Je suis repassée par mon binôme pour lui dire clairement, en disant que tu as compris, j'ai compris qu'on ne veut pas m'écouter, mais je sais que si toi tu es présent, tu as un homme blanc en plus, ça passerait. Donc on va laisser croire que c'est toi, on va changer deux ou trois phrases. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Le programme a été accepté parce que ça venait de lui. Je n'avais pas le choix, j'avais compris que pour faire passer mon projet, parce que pour moi c'était ça l'essentiel, il fallait passer par cet homme-là et ça a marché.
Faire réentendre et faire s'affirmer la voix des femmes constitue un enjeu politique et sociétal majeur. Depuis l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo aux États-Unis, la question de la place de la voix féminine dans le débat public est, plus que jamais, redevenue d'actualité.
Alors, le mouvement MeToo, depuis quelques années, a offert, a permis en tout cas de construire un espace, il n'est pas arrivé tout seul, hein, mais de construire un espace d'indignation, de révélation aussi d'un certain nombre de violences sexistes et sexuelles qui n'existaient pas auparavant. Cet espace n'existait pas, ça ne veut pas dire que les victimes ne parlaient pas, ça veut dire surtout qu'il n'y avait pas d'espace pour l'exprimer et pour recevoir et pour servir de caisse de résonance à ces problématiques et surtout a permis de penser ces phénomènes comme des problèmes sociaux et non pas des actes individuels isolés mais comme un système global dans lequel s'inscrivent les violences masculines contre les femmes, contre les enfants, contre les minorités de genre. Donc ça c'est une nouveauté, hein. Les victimes ont toujours essayé de parler, mais simplement on ne les a pas toujours écoutés. Il n'y avait pas forcément d'espace pour les écouter et pour poser comme un problème social ce qu'elles pouvaient révéler.
Si au cours des dernières années, les luttes féministes ont permis de grandes avancées dans la libération des femmes, aujourd'hui encore, le combat continue.
C'est que cette égalité de droit qu'on connaît aujourd'hui en France depuis une cinquantaine d'années, c'est le résultat de mobilisation, le résultat de combat. C'est aujourd'hui inscrit dans la loi, mais la loi, ça peut se changer. Et on le voit par exemple dans d'autres pays, y compris des pays qu'on considérait comme des démocraties progressistes, comme par exemple les États-Unis, où la question des droits des femmes peut être remise en question à la faveur d'orientations politiques différentes. Il y a des endroits dans le monde où les femmes sont des êtres inférieurs en droit. Si je prends la situation des femmes en Afghanistan, qui est absolument dramatique, où elles sont reléguées à l'espace privé, où elles n'ont même pas le droit d'être visibles de l'extérieur, elles n'ont pas le droit de prendre la parole en public, enfin bon, elles sont réduites à l'état de fantômes. Eh bien, c'est des conditions que vivent des femmes aussi ailleurs dans le monde, et que c'est parce qu'il y a des mobilisations en faveur de l'égalité, des solidarités internationales aussi, que des choses peuvent évoluer. Mais j'attire votre attention sur la nécessité d'être vigilant et vigilante pour protéger ses acquis, parce qu'ils peuvent aussi être détricotés.
L'ensemble des créations réalisées a été présenté aux familles des élèves le 11 juin 2026 à Creative Seeds, partenaire du projet aux côtés de la radio Syllab. Ces créations n'auraient pas vu le jour sans l'engagement et le soutien renouvelé des enseignants du lycée, Martin Schindler-Pondiguel et Rémi Launay.
Syllab, la radio sauvage.
Dès 10h le samedi.
Nous, on a beaucoup aimé préparer cette émission pour vous.
Les ateliers de radio Syllab, dès 10h le samedi.
Radio Syllab pour les ateliers.